Voici maintenant la chronique philosophico-socio-écono-politico de Jean-Simon Buis. Sa réflexion, sa vision des choses, son grain de sel. Voici un grand moment de radio.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like
me. On va parler de pilules, si vous avez pas compris où est-ce qu'on s'en allait. Ça, c'est Mike, j'ai un blanc de mémoire de son nom de famille. Il va nous le dire. Salut Jean-Simon, oui.
Salut Catherine, Mike ouais. Posner.
Posner, exactement.
Qui est un chanteur pop américain qui a connu la gloire grâce à quelques singles, notamment au début de sa carrière, Cooler Than Me. Dans le temps, il se faisait comparer à Justin Timberlake. Bref, il n'a pas eu autant de hits que lui. Mm-hmm. Mais en 2016, il a sorti ça, A Pill in Ibiza, qui a été remixé par Sieb. C'est la version qu'on a entendue. Et ça parle de l'absurdité de la recherche d'une étiquette glamour, d'une étiquette de party animal. Et c'est amusant que vous ayez parlé d'astrologie, justement. Avant ma chronique.
Oui.
Parce que je vous propose ce matin une réflexion sur les pilules et les étiquettes sur les pots de pilules.
Okay.
C'est une réflexion, Catherine, que je mûris depuis plusieurs années puis qui n'est pas encore tout à fait assez mûre, un peu trop dure, comme les maudits avocats qui mûrissent tout croche. Mais bon, je vous la partage pareil parce que des fois, on a besoin d'un avocat même s'il n'est pas mûr. Bon,
c'est vrai. J'aime ton comparatif.
Lundi, je lis le premier volet d'une enquête de la presse qui démontre que se procurer du Ritalin, Concerta et autres vivances au Québec, c'est d'une facilité déconcertante.
Oui.
Les journalistes qui sont arrivés à s'en procurer en quelques instants dans le bureau d'un médecin de famille. Puis mardi, deuxième volet de l'enquête, 10 fois plus de jeunes Québécois sont diagnostiqués TDAH qu'en Belgique, par exemple, selon les chiffres actuels. Et 40% des élèves au Québec seraient TDAH, ce qui fait absolument aucun sens, selon les experts interrogés. C'est des articles, Catherine, qui ont une résonance toute personnelle pour moi. Parce qu'à l'âge de 5 ans, à la maternelle, j'ai quelques souvenirs d'avoir rencontré l'orthopédagogue en début d'année. Puis quelques flashs également, j'avais 5 ans, vous comprenez que les souvenirs ne sont pas ultra clairs, de conversations entre mes parents à propos de Ritalin. Et je comprends très, très jeune, très rapidement entre les lignes, que l'école a suggéré fortement à mes parents de me faire prescrire du Ritalin. Mais mes parents ne veulent rien savoir de la médication. À l'école puis à la maison, je vous décris Jean-Simon Buis à 5 ans, je suis turbulent, je suis impulsif, je suis dissipé, puis pas toujours attentif. Mais tu sais, l'étiquette va rester, même si je n'ai pas de médicament, même si je n'ai pas de diagnostic.
Parce que c'est ça, tes parents ont refusé. Tu n'en as pas pris.
Oui, j'en ai pas pris.
Mais
l'étiquette reste, tu sais, parce qu'à 5 ans, je comprends que, selon tout le monde autour de moi, je suis TDAH. Fait que pendant 25 ans, Catherine, pendant 25 ans, moi, je pense que je suis un TDAH non médicamenté. Il y a des profs qui font allusion aux primaires. Mes parents, à l'occasion, font référence à ce que je viens de raconter. Alors, je me définis comme tel, Catherine. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je considère que mes inattentions, mes poussées d'énergie, mes actions plus impulsives sont dues au TDAH. Puis là, en 2015, j'ai fait un accident perte totale sur chemin Sainte-Foy, Québec. Puis ça a changé ma vie parce que, sur le coup, je ne l'ai pas réalisé, mais mon cerveau a été sérieusement secoué. J'ai eu les symptômes d'une commotion cérébrale d'aplomb que j'ai mal identifié sur le coup, des symptômes dépressifs qui vont revenir même chaque année par la suite dans les années subséquentes. Ça n'a pas été évident. Fait que j'explore, tu sais, nécessairement. Là, je vais explorer, est-ce que je suis bipolaire parce que j'ai des épisodes dépressifs? Je rencontre un psychiatre, il me dit non. Je me retrouve hiver 2018, finalement, en neuropsychologie pour tester une autre avenue. Puis j'en profite pour mentionner, je suis TDAH, je pense, en tout cas, là, parce que tout le monde me dit ça depuis que j'ai 5 ans. Fait que la neuropsychologue me fait passer les tests de TDAH. Puis c'est pas ça pantoute. Je suis aucunement TDAH. Fait que là, vous comprenez que ma vision du monde change.
Mais c'est sûr, ça fait 25 ans que tu penses ça.
Tu sais, Catherine, l'étiquette qu'on m'a collée, tout à coup, se décolle. Fait que là, je me dis, t'es qui, toi? Tu pensais que t'étais un TDAH, tu l'es pas à cette heure. C'est quelle étiquette que je me prends là, pour me coller? Bon, finalement, j'en ai trouvé une autre chez la neuropsychologue qui est valide. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais peu importe l'étiquette, Catherine, ça nous définit pas à 100%, peut-être même pas à 35 ou 25%.
C'est vrai.
Puis j'ai parlé à plusieurs personnes cette semaine depuis que j'ai publié ce sujet-là, puis j'ai lu les articles. Puis les témoignages, ça va de « on a médicamenté mon fils pour le TDA ». En fait, plusieurs années plus tard, on a réalisé qu'il était TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, qui n'a rien à voir.
Mais c'est pas pantoute la même affaire.
Pantoute. Ça va aussi à une fille que je connais qui dit « je me suis fait prescrire du Vivance en faisant à croire que j'avais un TDA, mais c'était pour perdre du poids, parce que ça coupe l'appétit
».
Puis quelqu'un d'autre qui me dit « mon ami a fait son droit puis son barreau au complet sur les psychostimulants, puis là, elle a arrêté, le sevrage est l'affaire la plus difficile qu'elle a jamais fait ». Mais ce qui ressort de tout ça par-dessus tout, c'est que dans la société actuelle, je pense, Catherine, On est désespérément à la recherche d'étiquettes pour se définir. Que ce soit je suis TDA, je suis fils d'immigrant, je suis verso ascendant scorpion, je suis une victime survivante, je suis bipolaire, je suis racisé, je suis queer. Puis là-dedans, il y a un paquet d'étiquettes qui sont valides, véridiques. Mais ces étiquettes-là ne nous définissent pas comme être humain. On est plus qu'une étiquette.
Oui, en effet. Puis tu as tout à fait raison. Puis en même temps, je trouve que paradoxalement, les gens n'ont jamais eu autant besoin de se définir. Et tu trouves-tu d'un autre côté?
T'as entièrement raison.
T'sais, on dirait qu'on a besoin de trouver un mot qui nous représente. Parce que, bon, oui, tu sais, des gens qui se cherchent puis qui se disent, OK, moi, je suis quoi? Parce que, tu sais, tu as nommé quelques-uns queer, tu sais, des termes qu'on n'entendait pas avant, puis c'est pas un jugement, là.
Non, non.
Mais on dirait qu'on a... Tu sais, l'humain a besoin un peu de ça, de soit de se regrouper ou de s'identifier à un groupe ou à quelque chose, tu sais. On dirait qu'on se cherche souvent.
Oui, puis on vit à une époque également où... c'est un ami à moi qui avait eu ces mots-là dans une discussion l'été dernier, et je trouve qu'elle est vraie, cette définition-là. On vit à une époque où on est soit une victime, soit un oppresseur. Ouais. Rien entre les deux. Fait Catherine, t'es toi une victime, soit un oppresseur, choisis ton camp. Puis même affaire pour moi, OK? Parce que soit t'es d'une minorité corporelle, sexuelle, ethnique, tu sais, peu importe, tu vas trouver ton espèce d'étiquette, puis là, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir accuser le monde entier de t'attaquer, de te discriminer. Et entendons-nous, il y en a de la discrimination. Je pense même qu'elle est systémique. Je sais qu'on ne s'entend pas tout à fait là-dessus, Catherine, mais tu sais, je suis le premier à accepter qu'il y a de la discrimination dans la société, puis j'en ai vécu moi-même.
Ouais.
Ceci étant dit, quand tu passes ton temps à te définir comme étant d'une minorité, d'un groupe précis ou tout ça, tu mets le spotlight là-dessus.
Ah, c'est clair. Absolument.
Et tu éludes tout le reste qui est, au fond, les ressemblances, les choses que tu as en commun avec les autres, Catherine.
Oui. Non, mais ton point est bon. Puis c'est une conversation, tu sais, qu'on pourrait étendre parce qu'il y a... Oui, on dirait qu'on est dans une drôle de mouvance. C'est... Ouais. Puis, tu sais, avec ce qu'on a vécu aussi dans les 18 derniers mois, je trouve qu'on se cherche plus que jamais. Tu sais, autant on a pensé collectif, puis je pense que c'était important de le faire et c'est encore important. Est-ce qu'on se perd comme individu? Je ne sais pas.
Puis regarde, tu sais, on parle d'étiquettes puis de danger des étiquettes. Tu sais, on a parlé abondamment des complotistes, tout ça. Oui. Dans mon reportage pour nos années 20 la semaine passée,
oui,
je rencontre un gars, Maxime Ouimet, qui est le policier du peuple, l'ex-policier, tu sais, dans les leaders de cette mouvance-là. Tu sais.
Oui.
Puis je lui demande comment ça a commencé, tout ça. Il me dit ça très, très naturellement, spontanément. Il dit, c'est quand Yves Poirier de TVA est rentré chez nous, puis que la première question qu'il m'a posée avec son micro, c'est « Fait que toi, t'es devenu policier conspirationniste à temps plein. » Puis je l'ai retrouvé en passant, c'est pas une invention, là.
Ah,
ça,
ouais,
ça a vraiment été dit. Il dit, puis là, j'ai fait « Wow! » C'est la première fois qu'on me mettait cette étiquette-là. Avant ça, je m'étais pas intéressé à Cossette Trudel, les autres bébelles, tout ça. Jamais. Et là, tout à coup, on lui donne une étiquette. Tu es un conspirationniste, et il sombre.
Ouais.
Ça pose des questions.
Ah, ça pose des questions, absolument. Très intéressant. Merci, Jean-Simon. On s'en parle la semaine prochaine.
Salut, Catherine.
Salut, bye-bye. Jean-Simon Buis, il est jeudi aux alentours de 9h20, 9h25. Matière à discussion, à réflexion, ça, c'est clair.